Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, et même quelquefois en géo-histoire, comme dans l'émission du jour, où on parlera des notions de monde et de mondialisation. Vous pouvez retrouver l'émission sur iTunes, Spotify, YouTube, partout où on écoute des podcasts. Vous pouvez soutenir l'émission par un petit don ou un achat dans la boutique en ligne sur paroleshistoire.fr. L'émission de dimanche prochain, 14 avril, sera consacrée à Franco devant ses juges, ou plutôt son impunité, évidemment, en compagnie de Sophie Babi. Tout de suite, la mondialisation, fin 19e siècle et avant. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Vincent Capdepuis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, géohistorien, auteur de plusieurs ouvrages et vous avez récemment publié « Le monde ou rien » aux presses universitaires de Lyon dans la collection « Espace critique ». Un livre inclassable puisqu'on y trouve de l'histoire, on y trouve de la géographie, on y trouve de l'étymologie, de la philologie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu quel est votre projet à travers ce livre ?
Alors ce livre, c'est la poursuite en fait, d'un travail de recherche qui a été entamé il y a plus d'une dizaine d'années. Au moment où j'ai fini ma thèse, en fait, qui portait sur la géohistoire du Proche-Orient, du Moyen-Orient, pour faire vite, j'ai commencé à travailler sur la notion de mondialisation, en faire l'histoire, remonter ce siècle d'histoire, hein, puisque le mot est plus ancien qu'on pourrait le croire habituellement, même si je pense que maintenant, on commence à se faire l'idée que ce mot date du début du XXe siècle. Et donc, j'avais travaillé sur le mot, j'ai travaillé sur la mondialisation, les mondialisations, puisque j'ai commencé, c'est ça, à partir de 2010 environ, à faire de l'histoire globale, un moment où on commençait vraiment à en parler, mais c'était pas forcément toujours bien perçu. Peut-être qu'on pourra en reparler. Et donc, ce travail de recherche sur le mot mondialisation, je le poursuis toujours, jusqu'à aujourd'hui. Ça constitue le volet central, en fait, finalement, de cet ouvrage, hein, qui est conçu, alors, c'est pas forcément explicite, mais qui est conçu comme un triptyque. C'est le cœur de ce livre. Je l'ai étoffé en abordant d'autres mots, concurrents ou plus ou moins synonymes, en tout cas qui offrent une palette, une certaine richesse conceptuelle intéressante en français, hein, donc à côté de mondialisation, hein, globalisation, bien entendu, mais planétarisation. Par exemple, universalisation, internationalisation. Donc ça, c'est le volet central. Et il y a deux volets. Un premier, finalement, qui est de faire l'histoire du mot monde, parce que à travailler sur la mondialisation et en définissant la mondialisation comme un processus de mise en monde, ben, la question, forcément, à un moment donné, elle se pose. C'est quoi un monde ? C'est quoi le monde ? Alors, qu'on peut distinguer par un jeu de minuscules et de majuscules, c'est difficile à l'oral, mais c'est important, hein, c'est des conventions qui datent du début des années 80, chez les géographes, je précise, peut-être pas chez les historiens encore. Donc ça, c'est le premier volet qui a complété ce travail de recherche et qui je pense, est sincèrement inabouti, en fait, dans le sens où moi, j'étais plutôt étonné de ne pas trouver... j'attends en tout cas des réponses, des réactions des historiens. Je n'ai pas trouvé de travaux sur cette notion de monde qui pourtant est très banale, très, très utilisée par les historiens pour parler de monde romain évidemment, mais de monde grec, de monde arabe, de monde chinois, enfin, etc. De monde espagnol, je ne sais pas. Et pourtant, voilà, on l'emploie, et on l'emploie depuis deux siècles, pas plus en fait, hein, guère plus, sauf peut-être pour le monde romain. Voilà, j'ai entamé ce travail qui, je pense, devra être complété, peut-être corrigé, enfin comme tout travail de recherche. Et le troisième volet, qui est sur la notion de mondialisme. Alors c'est un petit peu différent par rapport aux deux autres volets, parce qu'il y a un aspect peut-être plus politique. On se rapproche davantage peut-être de l'essai, enfin, surtout vers la fin, et qui est une question, en fait, une question morale, politique, que je me pose et qu'on se pose, je pense, en travaillant sur la mondialisation, en faisant de l'histoire globale. Comment on se positionne par rapport à la mondialisation contemporaine et peut-on être mondialiste aujourd'hui ?
Peut-on être mondialiste, sachant qu'en plus mondialiste est devenu une épithète de combat lorsque il y a des gens qui dénoncent les globalistes, les mondialistes, etc. Par opposition aux natifs, aux gens enracinés. Donc évidemment, ça charrie aussi tout un imaginaire souvent politiquement très, très toxique lorsque c'est pris dans ce sens-là. Alors pour revenir sur la genèse un peu de cette démarche, est-ce que vous pouvez dire un petit mot de votre parcours personnel au croisement de différentes disciplines, aussi peut-être d'un moment intellectuel. Il y a une thèse avec un géohistorien, il y a la revue Monde, voilà, il y a un peu un environnement dans lequel ces questions ont commencé à se poser de façon plus nette autour des années 2000-2010.
Alors, je n'ai pas un parcours très, très linéaire, puisque j'ai une...
Un parcours mondial, justement, c'est ça qui
est
intéressant.
Sans parler de mes trajectoires personnelles, de déménagement, puisque j'habite à La Réunion.
Réunion, c'est très mondial, c'est un microcosme, d'une certaine manière.
Alors, bonne question. Alors, je vais revenir. Je commence par ma trajectoire, puisque je... Une licence d'histoire. J'ai une maîtrise et un DEA d'archéologie, en fait. Je me suis spécialisé quelques temps sur l'âge du bronze, que ce soit en Grèce, enfin dans le monde grec, la Crète, le monde mycénien, etc. Et puis après sur la ville d'Ougarit, donc sur la côte syrienne. Et après donc ce temps d'archéologie, d'études archéologiques, j'ai fait une thèse de géographie sous la direction de Christian Grataloup. Et donc c'est là où je suis devenu un géohistorien, comme on dit. C'est-à-dire quelqu'un qui mêle la géographie de l'histoire et l'histoire de la géographie. Et ma thèse a porté sur l'étude du Moyen-Orient, sur en fait le désert de Syrie. J'ai pris à contre-pied la figure du croissant fertile et je me suis posé la question sur ce qu'il y avait au milieu du croissant fertile, sur cet espace vide et sur finalement la place de ce vide, qui n'est évidemment pas vide, qui est peuplé depuis très longtemps, et sur la place de cet espace dans l'histoire longue du Moyen-Orient. Et thèse que j'ai soutenue... 2010, ça commence à faire. Et entre-temps, j'avais déménagé à La Réunion, où je suis enseignant. Et donc, j'ai pris beaucoup de distance avec mon terrain de recherche, d'une part. La guerre civile a éclaté en 2011, donc c'est devenu encore plus compliqué d'envisager une poursuite de recherche sur la Syrie, même si y a toujours des chercheurs, et bien heureusement, malgré la guerre. Et c'est presque par accident, en fait, que à un moment donné, je me suis dit, je vais travailler sur le monde mondialisation. J'avais fait l'étude de différents termes, de différents découpages, donc évidemment Moyen-Orient, Proche-Orient, croissant fertile, que je viens de citer. De Grand Moyen-Orient, on en parlait beaucoup après la guerre en Irak, donc une notion utilisée par certains stratèges états-uniens. Donc j'avais, je vais dire un petit savoir-faire, peut-être, dans la recherche géohistorique et étymologique. Presque par jeu, en fait, je me suis dit, je vais travailler sur la notion de mondialisation. Qu'est-ce que je trouve ? Et ce que j'ai trouvé m'a un peu surpris, justement, parce que c'est là où j'ai découvert l'histoire longue, on va dire, de ce mot. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça rejoint aussi d'autres préoccupations politiques, peut-être, par rapport à un ancrage à gauche, par rapport à l'altermondialisme, et peut-être un sentiment de malaise avec cette impression, alors peut-être fausse, un peu peut-être exagérée, que la critique de la mondialisation, rejetait en même temps l'idée de monde. Et donc la question de l'humanité, qui est quand même au cœur du projet politique de la gauche. Et je l'ai ressenti d'ailleurs, parce qu'en faisant en commençant à travailler sur la notion de mondialisation, en commençant à faire de l'histoire globale, donc sur un blog qui existe toujours, mais auquel je ne participe plus, mais qui avait été fondé par Philippe Noël, qui était maître de conf en économie à Poitiers, et puis Laurent Testo, qui était journaliste à Sciences Humaines, il n'y avait pas grand monde qui faisait de l'histoire globale au début des années 2010. J'ai bien senti en fait une critique, je ne vais pas dire un reproche, mais... de participer à quelque chose qui serait le cheval de Troie du libéralisme planétaire.
Alors, peut-être qu'il faut en dire un mot, parce que c'est quelque chose qu'on mesure peut-être pas totalement aujourd'hui, mais le milieu des années 2000, début des années 2010, ça a été un moment où la mondialisation avait une place dans le débat public absolument gigantesque, avec une force d'évidence, de fausse évidence d'ailleurs, parce qu'on n'était pas toujours d'accord sur ce qu'on mettait derrière. Et puis, il y avait cette perception d'une mondialisation au prisme de l'économie, d'où sans doute la nécessité de faire de l'histoire de la géographie pour comprendre d'autres logiques que les logiques purement économiques, et puis d'une mondialisation qui était la mondialisation anglophone, états-unienne, rouleau compresseur, détruisant les cultures locales, voilà, dans une version très simplificatrice. Et du coup, effectivement, faire de l'histoire globale pouvait vouloir dire ne pas entrer dans ces logiques-là, ou les critiquer de l'intérieur, ou proposer une alternative intellectuelle. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu ?
Ouais, complètement. C'est-à-dire que je suis étudiant au milieu des années 90, au début des années 2000, c'est-à-dire création de l'OMC, enfin l'Organisation Mondiale du Commerce en 1995, c'est Seattle en 1999, puis Gênes, enfin bon. Donc des moments importants dans la gauche internationale, anti-mondialiste, intermondialiste, justement, il y a un petit débat sur ces mots. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé, parce que l'internationalisme est quand même au cœur de la gauche depuis le milieu du 19e siècle. Et aujourd'hui, la suite logique devrait être que la gauche soit mondialiste, en fait. Or, ce n'est pas un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui, toujours. Donc c'est quelque chose qui m'a interpellé. Donc en travaillant sur la mondialisation, sur la notion, en faisant de l'histoire globale, j'ai peut-être pris un peu le contre-pied, en fait, de certains collègues, camarades à gauche, pour essayer de montrer qu'il n'y a pas que la mondialisation économique, il n'y a pas que la mondialisation capitaliste, il n'y a pas que la mondialisation libérale, et que c'est quelque chose qui est plus long, plus ancien, plus complexe, plus intéressant, et qui nous appartient.
Alors on va redérouler justement ce fil chronologique, revenir à l'histoire longue du monde, avec cette idée très intéressante, hein, qui est que le monde en tant que totalité de la planète n'a pas toujours existé, n'a pas toujours été pensé en tant que tel. Et du coup, vous passez d'abord en revue d'autres manières de le nommer, d'autres manières de le penser, et peut-être qu'on peut en dire un petit mot pour chacun de ces termes, et de voir ce qu'il en reste. Alors on commence chez les Grecs, où il y a la naissance... pas que là, mais notamment là, d'une pensée géographique, avec des termes comme cosmos et oikoumené.
Alors, deux termes qui désignent des réalités très différentes, à des échelles très différentes. Hein. Le cosmos, c'est je vais le dire en latin, alors quasiment, c'est l'univers, c'est l'ensemble de ce qui est organisé, ordonné. L'oikoumène, c'est la forme actuelle en français. L'oikoumené en grec, c'est un passif, c'est la terre habitée. La terre habitée, par les êtres humains. C'est pas le monde tel qu'on pourrait le dire aujourd'hui, dans le sens où on a une idée qui est théorique, en fait. On a une idée que, voilà, il y a des êtres humains qui occupent une partie de l'espace global, hein, de l'espace terrestre. En gros, ça correspond à un quart. En tout cas, c'est l'évaluation qu'en font les géographes, les cosmographes grecs. Mais ça ne veut pas dire que tous ces humains constituent un monde, qui sont interconnectés, qu'il y a une unité, etc. Donc la notion d'écoumène, elle a été très utilisée à ce moment-là, enfin très utilisée par des géographes. Elle a disparu pendant longtemps et elle a ressurgi au 19e siècle. Alors c'est une notion savante, hein, chez Ratzel, chez Reclus un petit peu, et puis plus récemment, peut-être en français, chez Berck. Et en même temps, évidemment, elle s'est transformée. C'est-à-dire que l'écoumène, c'est plus le quart du globe terrestre. L'écoumène, depuis la fin du 19e, c'est Ratzel qui en fait le...
Ratzel, on rappelle que c'est un géopoliticien allemand.
Je sais pas si c'est le... géopoliticien, géographe.
Il est connu comme un des fondateurs de la géopolitique et une grande figure de la pensée de l'espace en Allemagne.
Oui, un de ses principaux ouvrages, c'est Anthropogéographie, donc la géographie humaine, littéralement. Et donc, qui a été peu traduit en français, toujours aujourd'hui, mais qui a beaucoup influencé quand même certains géographes, notamment Reclus, Élisée Reclus, mais pas que. Et il fait ce constat donc à la fin du 19e, au début du 20e, que l'écoumène, à ce moment-là, eh bien, il s'est étendu à l'ensemble de la Terre. Voilà. Il a ce constat que... Qui rappelle la phrase d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Hein, il dit il n'y a pas d'autre planète, en fait. Hein. On est arrivé aux bornes, on est arrivé aux limites de l'espace planétaire. Et on a une conscience écologique, en fait. Il n'y en a pas d'autre. Et peut-être qu'il faut faire attention, en fait. Bon. Donc ça, c'est la notion d'écoumène. La notion de cosmos...
Qui a donné cosmopolite, évidemment.
Ouais, c'est ça qui est intéressant, parce que quand on parle de cosmopolite ou de cosmopolitisation, cosmos désigne de façon évidente, en fait, le monde. Le monde tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le monde à l'échelle planétaire, à l'échelle globale. Une ville cosmopolite, voilà, je crois qu'on y est, à Paris, plus peut-être qu'à La Réunion, on pourrait faire une comparaison, mais voilà, on est dans une ville cosmopolite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent du monde entier, alors plus ou moins évidemment du monde entier, que quand on se promène, on entend des langues étrangères, on va entendre de l'arabe, de l'anglais, de l'allemand, je ne sais, enfin plein de langues qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Et donc c'est une ville qui est... qui reproduit ou qui est à l'image, enfin, qui donne une certaine image du monde entier. Et pourtant, ce Cosmo de Cosmopolite, ce n'est pas le cosmos du terme qu'on emploie habituellement pour désigner l'univers intersidéral, etc. Et donc on voit bien comment les mots ont des trajectoires différentes, même dans une même langue.
Autre terme, cette fois en latin, orbis, qui est beaucoup utilisé et qui rappelle que la conscience du monde comme globe est quelque chose d'ancien. Il y a un livre récent, hein, la Terre plate, histoire d'un mythe, Sylvie Noni, je crois, l'autre auteur m'échappe, mais voilà, des auteurs médiévistes qui ont restitué la façon dont on a toujours su que la Terre était un globe et que la Terre plate, c'est une fausse idée sur le Moyen-Âge. Mais du coup, le terme d'orbis le désigne et a une influence en particulier au Moyen-Âge. La Renaissance.
Alors, c'est plus complexe que ça, parce que la notion d'orbis, donc, qui désigne quelque chose qui est circulaire hein, en latin, a pu être compris différemment, en fonction des époques, en fonction du latin au moment de l'Empire, ou du latin médiéval, on va dire.
C'est Violaine Giacomotto Cara et Sylvie Noni, La Terre plate, Géologie d'une île fausse. Je voulais juste compléter la référence.
Ouais. Alors, qu'il y a petite parenthèse sur ce livre, en fait, bon, qui est un ouvrage en français, mais en fait, ça fait longtemps, enfin, ça faisait quand même pas mal de temps qu'on le savait déjà, parce qu'il y avait eu un autre ouvrage en anglais sur la même question et qui avait complètement déconstruit ce mythe de la Terre plate, qui est un mythe, en fait, qui date du 18e siècle, hein, du siècle des Lumières, qui a cherché à obscurcir les connaissances médiévales. Bon, je ferme la parenthèse. Sur la notion d'orbis, donc le mot lui-même désigne quelque chose qui est circulaire. Et en fait, ça a désigné deux choses. La première chose, c'est pas du tout le globe en fait terrestre. C'est le disque de la Terre habitée. C'est-à-dire, finalement, c'est la traduction latine de l'écumène. Ce disque habité, c'est la partie sur la sphère terrestre, c'est la partie qui est peuplée par des humains et qui correspondrait en gros à ce qu'on peut appeler l'Euphrasie, c'est-à-dire donc le continent unique constitué par l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Il y a des considérations théoriques sur un continent peut-être opposé, c'est une question d'équilibre, de poids du globe, alors, c'est l'idée d'antipode, mais c'est juste une hypothèse. Et donc l'orbis, en latin, ça désigne d'abord ça. L'orbis terrarum, c'est vraiment le continent en fait, formé par les terres habitées. Et le deuxième sens, donc, qui est très différent, et qui s'impose, qui est concurrent dans un même livre, en fait, on peut trouver le même mot utilisé avec des sens différents, hein, donc dans des manuels de cosmographie médiévale, par exemple. L'orbis, c'est aussi le globe. Parce que, voilà, on vient de le dire, au Moyen-Âge, on sait que, enfin, les clercs, en tout cas, savent que la Terre n'est pas plate, la Terre est une boule au centre, alors, placée au centre de l'univers, et qu'on peut désigner comme ça. Mais c'est un mot, alors en français ça a donné l'orbe, mais bon, je crois que personne n'utilise ce mot aujourd'hui, et c'est un mot qui finalement a disparu de notre vocabulaire au profit d'autres termes, celui peut-être d'univers et surtout celui de monde.
Universus, justement, vous en parlez, avant de venir au monde, on va peut-être expliquer aussi le rôle qu'il joue en lien avec d'autres connotations, cette fois qu'uniquement spatiales.
Alors, c'est la notion d'univers qui désigne là aussi hein, le cosmos, en fait, c'est une traduction du cosmos grec, a été beaucoup employée, alors, notamment sous sa forme adjectivale, pour désigner ce que nous on va appeler mondial. En fait. La géographie universelle, au XVIIe siècle par exemple, la géographie universelle, c'est la géographie du monde entier. Et c'est quelque chose qui perdure jusqu'à aujourd'hui. La dernière géographie universelle, ce qu'on a appelé la nouvelle géographie, hein, qui date du début des années 90, hein, notamment sous la direction de Roger Brunet, on ne change pas le terme. On parle toujours de géographie universelle, alors que c'est finalement complètement démodé. Autre usage qui continue jusqu'à aujourd'hui, en tout cas en français, c'est le terme d'exposition universelle. Une exposition universelle, en réalité, c'est une exposition qui est mondiale. Et donc, ce terme d'univers a été longtemps utile, ou on pourrait aussi parler d'histoire universelle, c'est pareil, c'est l'histoire du monde. Ce terme d'universel était le plus évident, le plus couramment utilisé, d'autant plus que l'adjectif mondial n'existait pas. On peut être surpris, en fait, parce que la notion de monde, elle est très ancienne, hein, donc c'est le mundus latin. Donc on pourrait se dire que, finalement, pourquoi au XVe siècle, pourquoi au XVIe siècle, il n'y a pas un adjectif mondial, voilà, pour caractériser le monde. D'abord parce que peut-être tout simplement le monde n'est pas le monde global n'est pas encore nommé comme ça, d'une part, et on parle davantage d'univers, et d'autre part parce que donc cet adjectif n'existe pas, sans doute parce qu'il y a un autre adjectif, qui est l'adjectif mondain, qui a un tout autre sens et qui fait obstacle à l'émergence de cet adjectif qu'on trouve pourtant en italien. Et il faut attendre le 19e siècle, les années 1870. Sans doute, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, enfin c'est ce que j'essaie de me démontrer, c'est sans doute sous l'influence de l'italien qu'en français on commence à utiliser mondial tout doucement. Les années 1870, et puis de plus en plus...
Un moment d'interconnexion, voilà, des réseaux qui en parallèle aussi, évidemment, là, le lien, il faudrait pouvoir le démontrer, mais il est très tentant de voir dans l'ouverture du canal de Suez, les connexions télégraphiques océaniques, le facteur principal de l'émergence de la pensée du monde et du mondial.
Évidemment, le canal de Suez, c'est 1869, c'est le télégraphe, c'est enfin, les grandes connexions télégraphiques, c'est les années 1850. Le premier grand câble entre le Royaume-Uni et puis l'Inde, c'est 1857. Enfin, donc, on est dans un plein bouleversement, en fait. On a l'impression parfois que la mondialisation, c'est nous qui la vivons, en fait. Parce que on est d'une génération qui a vu se développer Internet. Et c'est évident qu'Internet modifie nos communications, accélère nos échanges et participe, nous fait peut-être changer d'échelle, en fait. Mais on peut essayer de se mettre à la place, hein, c'est le travail de l'historien, de se mettre à la place des gens qui, dans les années 1850, 1860, 1870, ont vu, en fait, finalement, cet espace-temps complètement bouleversé par de nouvelles innovations techniques. Je veux dire, le télégraphe, enfin, c'est quelque chose qui est... En fait, complètement incroyable, en fait, hein, en termes de vitesse, hein, de transmission de l'information. Donc, c'est vrai du télégraphe, c'est vrai après de la radio, et puis après, c'est la télévision, la mondovision dans les années 1960. Enfin, il y a toute une histoire. Il faut se défaire, en fait, de ce que nous, on connaît pour s'imaginer, en fait, les révolutions. Enfin, la révolution, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, toutes ces transformations qui ont été faites depuis un siècle, depuis 150 ans. Et dans cette deuxième moitié du 19e siècle, le sentiment de mondialisation, la conscience de la mondialisation est très fort en réalité.
Alors on va y revenir juste avant. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le terme de monde et son émergence, parce qu'il ne va pas de soi. Vous avez dit, ça fait deux siècles à peu près qu'on pense le monde comme monde. Il y a eu toute une phase où il posait problème parce que ça pouvait à la fois être la totalité, le monde au sens la planète, mais aussi la partie, le nouveau monde par rapport à l'ancien monde. Alors comment on fait s'il y a un seul monde pour qu'il y en ait un ancien et un nouveau?
Alors ça pose plein de questions, ça, plein de questions théologiques en fait, hein, sur la création du monde. Dieu, créateur du monde, il n'y en a qu'un. Alors, la question de la pluralité des mondes, elle a été envisagée, elle a été condamnée par l'Église. Et en même temps, il y a cette découverte, enfin, pour les Européens, hein, au XVe siècle, de cette terre qu'on ne perçoit pas tout de suite, en fait, comme un nouveau continent. Mais finalement, bon, le constat s'impose. Et on prend l'habitude de l'appeler le Nouveau Monde. Mais c'était une expression qui existait déjà, qu'on trouve chez des voyageurs, sous des formes latines, en fait. Cette idée d'autre monde, l'expression autre monde existe. Certains voyageurs, par exemple, je pense au XIVe siècle, qui s'enfoncent dans les steppes d'Asie centrale, dans l'Empire mongol, ont vraiment l'impression d'être dans un monde qui est autre, qui est étranger, qui est différent. Et donc, on voit bien que il y a une idée de pluralité, de monde, au sens civilisationnel, en fait, du terme. Et au 15e et puis au 16e siècle, on prend cette habitude de parler du nouveau monde pour l'Amérique, puisque c'est le nom qui s'impose progressivement, ce qui pose problème sur le plan théologique, mais finalement... on l'accepte. Voilà. C'est une expression qui s'impose dans les usages. Il y a l'ancien monde et le Nouveau Monde. Et donc, on a deux mondes qui coexistent. Sur une même Terre, sur un même globe, dont on a commencé à faire le tour, à partir des années 1520, et ce globe qui, lui aussi, finalement, va être appelé monde. On a donc là un terme qui est d'emblée polysémique, et ce qui est une des difficultés, d'ailleurs, en termes de travail de recherche, je fais un peu de méthodo, c'est pas facile, en fait, de faire de la recherche en plein texte, par exemple, hein, parce que si on cherche monde dans un corpus, on va trouver des choses qui sont très, très, très différentes. Donc, c'est assez compliqué. Mais on voit, finalement, se constituer ces usages parallèles, multiscalaires, en fait, où on va parler de monde pour parler d'une partie de l'espace global, un espace, finalement, qu'on pourrait qualifier d'inframondial aujourd'hui, et en même temps, ce nom qui s'impose, donc monde avec majuscule, qui est l'espace unique, l'espace global, qui est le puzzle à pièce unique.
Alors pour prolonger et complexifier encore cette approche sémantique de la mondialisation, il y a le mondial et l'international. Et alors comment ces deux termes coexistent dans une période où précisément des associations internationales à vocation mondiale apparaissent comme voilà, l'Union postale universelle justement, hein. C'est intéressant de voir que c'est typiquement le genre d'institution qui naît dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui a ces différentes dimensions, mondiale par sa portée, universelle dans son nom, internationale dans son fonctionnement parce que c'est des acteurs étatiques qui sont signataires et qui coexistent. Voilà, comment le mot international s'ajoute à ce vocabulaire?
Alors le terme d'international, il vient de l'anglais, il vient de donc il est forgé dans les années 1780, il est repris assez vite en français tel quel, et il désigne effectivement les échanges entre nations, entre États, entre sociétés, mais finalement il ne donne pas véritablement une échelle. Alors certes une échelle supra national au-dessus des nations, mais on peut parler de relations internationales à l'échelle de l'Europe comme à l'échelle du monde entier. Et donc, il est imprécis de ce point de vue-là pour penser la mondialisation. Et l'adjectif mondial qui apparaît, donc, dont l'usage se développe un siècle après, grosso modo, lui vient compléter. Il n'y a pas une véritable concurrence entre les deux. Si on veut être rigoureux, en tout cas, l'adjectif mondial, lui, désigne directement une échelle, le monde entier. Donc c'est vraiment important, en fait, même si peut-être que dans les usages, bon, on n'est pas toujours aussi rigoureux.
Il y a un moment évidemment important qui est ce moment d'apparition du terme mondialisation et que vous aviez déjà étudié une première fois et puis vous avez encore remonté la date à laquelle ça apparaît. Alors maintenant on peut l'identifier, il y aura peut-être des nouvelles surprises, mais bon, pour l'instant on sait qui a employé pour la première fois en français mondialisation, c'est Pierre de Coubertin.
Oui, alors en même temps, finalement, est-ce que c'est une surprise quand on y pense, enfin, ça a été une surprise au moment de le découvrir, mais... A posteriori, on se dit, ben, oui, bien sûr, le fondateur, enfin, le refondateur des Jeux Olympiques, qu'il ait une conscience du monde et de ce qu'il peut faire un monde aussi. C'est ça qui est intéressant, parce que la mondialisation, elle peut se percevoir selon deux échelles, en fait, temporelles. La mondialisation, c'est un processus multiple, pluriséculaire, voire peut-être plurimillénaire. Et en même temps, la mondialisation, c'est quelque chose qui se fait au jour le jour, au quotidien. Si certains mécanismes se grippent, s'arrêtent, le monde se défait, en fait. Bon, on en a eu une toute petite expérience avec le Covid, mais les Jeux Olympiques sont finalement un des éléments. Alors à l'époque, hein, les Jeux Olympiques ne sont pas mondiaux comme ils le sont aujourd'hui, mais c'est bien l'horizon qu'ils dessinent.
Et alors c'est intéressant parce que c'est aussi un horizon mondial dans lequel il est tout à fait naturel pour les grandes puissances impériales de considérer que le monde est le leur en quelque sorte et qu'il n'y a qu'un monde, c'est ce premier monde qui est le leur et puis finalement les autres espaces leur sont subordonnés et n'ont pas tout à fait la même place.
Complètement. La mondialisation du 19e siècle est une première partie du 20e siècle au minimum. C'est une mondialisation qui est européenne, c'est une mondialisation qui est impériale. Il y a un lien très fort entre l'étude de la colonisation, l'étude des empires et l'étude des mondialisations. Alors, il faut les coupler, il faut en être conscient. Et en même temps, je pense que c'est l'intérêt de l'histoire globale, c'est des fois d'inverser les regards, de faire le pas de côté et de changer le point de vue. Mais on change le point de vue, on ne change pas la réalité, on ne change pas la domination et le fait que la mondialisation a été en grande partie une européanisation. Et parmi les Européens, notamment les Anglais, enfin, c'est la notion d'englobalisation. Mais...
Alors, ça peut être intéressant justement de voir que pour les contemporains, si on focalise un peu le regard sur, on va dire, les années 1880-1910, avant la Grande Guerre en tout cas, comme apogée de la pensée du mondial et de la pensée du monde dans toute une série de milieux, tout le monde n'y met quand même pas le même contenu. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui, Coubertin par exemple, le monde est avant tout une arène d'affrontement à la loyale entre nations pour que le meilleur gagne. Il y a aussi des gens qui sont attachés à y mettre un contenu de mutualisation, de fraternité, à faire naître quelque chose comme du mondial et un esprit mondial. C'est des gens qu'on appelle souvent les internationalistes. Est-ce qu'on peut peut-être développer avec vous un petit peu sur ces milieux? Vous citez notamment une des figures très connues qui est en Belgique, Paul Hotlet, mais il y en a d'autres. C'est qui ces internationalistes qui croient qu'on peut faire advenir un monde?
Alors c'est une des choses, je trouve, les plus intéressantes quand on fait l'histoire de la notion, enfin du mot de mondialisation, c'est que les premiers usages sont assez différents. Alors on peut trouver un sens finalement assez basique. La mondialisation, c'est le fait de devenir mondial. Finalement, c'est le sens dans lequel l'emploie le mot Coubertin. Mais chez Paul Hotlet,
alors peut-être situons-le, voilà.
Voilà, qui est donc juriste belge, et je pense que ça, c'est pas un détail en fait, il y a toute une pensée internationaliste en Belgique, toute une attention.
Oui, on peut renvoyer d'ailleurs à l'épisode qu'on avait fait sur Henri Pirenne comme historien, entre la France et l'Allemagne, et justement obligé de penser des horizons européens pour ne pas s'enfermer dans le nationalisme, hein. Il y a une logique de cet ordre-là.
Voilà, je pense qu'il y a toute une réflexion à Bruxelles, enfin pas qu'à Bruxelles, mais qui a lieu. Et lorsqu'il parle de mondialisation, en fait, bah, il emploie dans un sens qui est facile à comprendre. C'est comme quand on parle de nationalisation au sens économique. C'est-à-dire que lorsque l'État s'approprie des moyens de production, enfin, ou des entreprises, etc., bah, pour lui, la mondialisation, c'est ça. C'est qu'il faut qu'à l'échelle mondiale, donc il y a toute une réflexion sur un gouvernement mondial, mais il faut qu'à l'échelle mondiale, on s'approprie des ressources, des richesses, des moyens de production, parce que finalement, on se rend compte, enfin en tout cas, c'est son analyse, c'est pas le seul, que les rivalités, les concurrences entre puissances aboutit à la guerre ou à des risques de guerre en tout cas. Et donc, si on veut la paix, et c'est fondamentalement son engagement politique, faire que la paix advienne. Hein. On est aussi, en cette période, il y a les deux conférences de La Haye, hein, qu'on a peut-être oubliées parce qu'elles ont été balayées par la Première Guerre mondiale, mais de 1899 et de 1907. Mais, donc, d'un côté, on prépare la guerre, en tout cas, il y a cette guerre, il y a des mécanismes qui aboutissent à la guerre, mais à côté de ça, on travaille énormément pour la paix. En fait, on essaye de créer une paix à l'échelle du monde. Alors, évidemment, c'est comme ça, ça n'a pas abouti, mais il ne faudrait pas l'oublier. Et Paul Hotlet, justement, donc, écrit avant la guerre, pendant la guerre, et il réfléchit à ça, et pour lui, la mondialisation, c'est ça. C'est donc une action politique.
Une action politique avec des dimensions concrètes, créer un lieu à Bruxelles qu'on appelle le Mundaneum, dans lequel on rassemblera toute la documentation humaine pour avoir accès à un savoir universel. Enfin, là, il y a des dimensions aussi matérielles qu'il cherche à réaliser.
Oui, alors ça peut paraître anecdotique aujourd'hui, mais parce qu'on consulte beaucoup avec ordinateur dans les bibliothèques, mais on a tous connu les petites fiches cartonnées.
Pas tous, justement.
Mais non, alors pas tous,
en tout cas. Les plus anciens d'entre nous.
Nous, on a connu les petites fiches cartonnées dans les bibliothèques, avec un format qui est standard. C'est Paul Hotlet qui en est l'inventeur. Bon, c'est une anecdote, mais c'est pour lui, ce travail, en fait, pour l'humanité, en fait, pour une mondialité effective et une mondialité qui soit pacifique aussi, c'est une mondialité de la connaissance, du savoir, et c'est ce lieu qui est en fait complètement utopique, qui est le Mundaneum.
Alors, ça c'est la version, on va dire, humaniste, libérale, optimiste, visant à la fraternité par la connaissance, la mise en commun, etc. etc. Il y a aussi des versions encore plus politisé, pourrait-on dire, qu'on trouve à l'extrême gauche. Il y a des internationalistes socialistes qui pensent le monde comme étant un monde affranchi des dominations. C'est aussi dans cette période hein, où l'internationalisme a un sens politique extrêmement fort.
Oui, depuis le milieu du 19e siècle, hein, la première association internationale, 1864, qui périclite ensuite, bon, la deuxième internationale, etc. Donc c'est une utopie qui est reprise hein, par vagues successives et qui s'inscrit dans des combats. Hein, c'est la journée des 8 heures, c'est le 1er mai qui existe toujours en fait et qui est finalement une fête. Une fête, c'est pas toujours une fête, en tout cas un moment important dans un calendrier qui est mondial pour tous les mouvements ouvriers. Alors c'est plus la journée de 8 heures, mais c'est d'autres revendications qui sont portées à ce moment-là. Et donc par ces mouvements internationalistes qui cherchent à dépasser les antagonismes en fait entre nations, et parce que le prolétariat doit être uni. C'est la fin du manifeste du Parti communiste. Hein. Mais dans cet internationalisme, finalement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas d'échelle. Ce qui compte, c'est de dépasser, en fait, se dépasser les clivages, dépasser les antagonismes. Il faut, voilà. Mais il n'y a pas forcément, enfin, en tout cas au 19e, où ce n'est pas formulé vraiment tel quel, il n'y a pas l'idée d'unir peut-être le monde. Alors, oui, on va y rentrer différemment, peut-être par la notion d'humanité. En fait. C'est le titre du journal de Jaurès, en fait. Hein.
Oui, il y a une dimension peut-être plus théorique que pratique qui consisterait à dire qu'il faut qu'en Asie, en Afrique, les gens soient émancipés, parce que là, ça obligera à affronter de façon beaucoup plus directe les modalités de domination coloniale que même dans les mouvements socialistes internationalistes, tout le monde n'est pas entièrement prêt à abandonner ou à rejeter.
C'est ça. C'est des choses qu'on va retrouver peut-être un petit peu plus tard. Je pense à la conférence de Bruxelles en 1927, hein, qui est organisée enfin indirectement par le Comintern. Donc où on a cette lutte anticoloniale qui prend de plus en plus d'importance. Et bon, c'est ensuite les années 50, les années 60. Hein.
Est-ce qu'on trouve durant cette période, donc il y a une forme d'apogée de l'esprit internationaliste avec plein d'associations, plein de mobilisations, il y a des juristes, il y a des experts, il y a des scientifiques, des gens qui coopèrent dans plein d'organisations, il y a des espérantistes qui inventent une langue universelle, qui essaient de convaincre tout le monde qu'il faut la parler, donc il y a tout un milieu dans lequel on est favorable au monde. Qui sont les gens qui le rejettent et quelle place ça a dans le débat public? La notion d'internationalisme ou de monde, elle peut aussi être rejetée au cours de cette période.
Je ne suis pas sûr qu'elle soit thématisée exactement de la même manière que.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anti-mondialistes, il y a des nationalistes, mais ce n'est pas forcément des anti-mondialistes.
Ouais, moi je ne le perçois pas comme ça. C'est des choses qu'on va peut-être trouver un petit peu plus tard, durant l'entre-deux-guerres. Alors voilà, je pense à un auteur sur lequel j'ai un petit peu travaillé, mais qui est un économiste. Autrichien qui est Ferdinand Fried et qui va adhérer ensuite au parti nazi et qui utilise la notion d'économie monde. Alors, j'ai été amené à travailler dessus un petit peu parce que c'est chez lui que Fernand Braudel trouve la notion en fait lorsqu'il travaille sur sa thèse, lorsqu'il est prisonnier en Allemagne, etc. Alors évidemment il reprend la notion, il reprend le terme.
Il n'y aura pas le nazisme. Il n'y a pas de scoop aujourd'hui dans Parole d'Histoire. Fernand Braudel n'était pas nazi. Tout va bien.
Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais voilà, Ferdinand Fried utilise la notion d'économie monde. Donc dans les années 1930, parce que pour lui, finalement, il faut rejeter, en tout cas, freiner, limiter cette mondialisation qui est en cours. Et il imagine, il cartographie un petit peu, il esquisse en tout cas, un monde qui serait un monde de monde, en fait, au pluriel. Avec, on voit bien, hein, une espèce de puzzle avec des grandes puissances qui auraient leur empire, leur espace vital ou leur ère de coprospérité, pour prendre du vocabulaire de l'époque, mais qui auraient des échanges plutôt limités. Donc, ce n'est pas une démondialisation absolue, mais en tout cas, il faudrait revenir à quelque chose qui soit différent et qui permettrait l'autarcie. En fait, c'est une notion très importante hein, dans l'économie nazie. Et voilà. Donc, on pense ce puzzle mondial Ce qui n'est pas sans évoquer certaines conceptions d'aujourd'hui, en fait, où on a l'impression que pour certains, l'idéal du monde du XXIe siècle serait une sorte de coexistence pacifique, plus ou moins pacifique, entre grandes puissances, ayant chacune son espace propre, voilà, sans trop se marcher sur les pieds.
Ce qui fait culminer ces dynamiques sémantiques, culturelles, intellectuelles, faisant du mondial un horizon, c'est la Grande Guerre, puisque la Grande Guerre, très vite, on l'appelle guerre mondiale, et elle est mondiale, et en même temps, elle signe aussi la faillite d'une certaine conception du mondial.
Ouais. Alors là, je rentre sur votre terre, sur votre spécialité, la guerre mondiale. Mais ce qui est intéressant, alors, c'est un travail, enfin là, c'est une réflexion que j'esquisse dans le livre et qui est en cours, en fait. J'essaye à mes heures perdues d'écrire un article là-dessus. Donc, c'est un travail de recherche à faire, je pense, sur la notion de guerre mondiale, et qui est effectivement employée très vite, en fait, hein, dès que la guerre commence. Certains, en tout cas, utilisent l'expression. S'ils l'utilisent, c'est pas parce qu'elle est forcément mondiale immédiatement, hein, même s'il y a des événements finalement assez rapidement en Chine ou dans le Pacifique, etc. Mais c'est tout simplement parce que l'expression est là, elle est disponible. L'adjectif mondial est utilisé depuis, on va dire, les années 1880, et l'expression guerre mondiale, la première occurrence, alors jusqu'à preuve du contraire, c'est, en français, c'est 1899. Il y a des conférences à Paris, on parle de guerre mondiale. Ça ne désigne pas une réalité, il n'y a pas de guerre mondiale à ce moment-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pensé, dont on a peur, qu'on imagine, qu'on redoute, etc. Bon, donc l'expression est là, elle est de plus en plus utilisée, on voit une montée. Hein. Je fais peu de quantitatifs, très honnêtement, mais je crois que là, sur une expression comme ça, ça devient vraiment intéressant, et puis je crois qu'on a des outils qui sont plus performants aujourd'hui pour faire du quantitatif sur des occurrences linguistiques.
Ouais, le gallicagramme, par exemple.
Ouais, exactement. C'est vraiment excellent.
On va leur faire un coup de chapeau amical parce que voilà, ils ont vraiment mis à disposition des chercheurs et des chercheuses quelque chose d'assez formidable. Évidemment, comme tout outil à utiliser en le paramétrant bien, en réfléchissant à ses limites, avec prudence, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de grande qualité que l'on peut utiliser très facilement. Voilà, Benjamin Azoulay, Benoît Courson, merci pour cet outil qu'on est nombreux à utiliser.
Ouais, c'est un outil qui est vraiment formidable et qui va bien au-delà de ce qui pouvait exister auparavant. On pouvait avoir des occurrences. Bon, il y a un autre paramètre en fait qui joue dans la qualité de ces recherches, c'est que la numérisation et la reconnaissance de texte aussi s'est nettement améliorée. Ce qui aide, hein, parce que sur un adjectif comme mondial par exemple, moi j'avais énormément d'erreurs en fait. C'est-à-dire que quand je faisais des recherches sur Gallica, très souvent, je tombais en fait sur des adjectifs comme mondain ou des choses qui n'ont rien à voir en fait, des erreurs de numérisation, des erreurs de reconnaissance de texte. Et je pense que tout ça s'améliore et ça permet d'affiner le travail de recherche. Je crois que c'est important et je pense que c'est uniquement avec ça qu'on va pouvoir commencer à faire du vrai quantitatif. Et pour en revenir sur l'expression guerre mondiale, justement, c'est ça qui est assez, c'est assez frappant en fait. Comment l'expression est utilisée? Voilà, de façon un peu épisodique, dans les années 1900, 1905, 1910. Et puis, il y a une sorte d'accélération avant même que la guerre mondiale n'éclate. Je ne vais pas dire que ce n'est pas parce qu'on en parle qu'elle éclate, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe et les gens le disent. Donc, ça, et cette expression, je peux aller un peu plus loin, si elle est employée en français, c'est manifestement sous l'influence de l'allemand. C'est-à-dire que quand on prend occurrence par occurrence, quasiment toutes les utilisations dans les journaux, hein, je parle, dans les journaux en français, y a une référence en fait à un journal, un article en allemand, donc à Weltkrieg, où l'expression est beaucoup plus employée. Et si on fait le même travail de recherche dans la presse britannique, on trouve exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on commence à parler de guerre mondiale, pareil, à partir de 1900, on va dire, et dans la quasi-totalité des cas, il y a une référence à un article allemand. Donc, c'est pas parce que les Allemands préparent la guerre ou veulent la guerre, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, l'expression, le terme, c'est plus facile aussi, en fait. Bon, c'est lié à des caractéristiques de la langue allemande, en fait. C'est plus facile de composer.
Qui agrège voilà, Weltpolitik, voilà, Weltmacht, Weltkrieg. Voilà. Ça a une évidence peut-être plus grande que dans la langue française.
Exactement.
Donc, et puis les Allemands ont voulu la guerre, hein, comme dit Fritz Fischer. Merci Vincent Cadopi d'avoir tranché ce débat historiographique.
Donc voilà, le mot est là en allemand, il est très employé, et finalement, en Angleterre comme en France, on reprend l'expression et elle est utilisée. Et ce qui est intéressant, c'est donc on parle de Première Guerre mondiale avant la Première Guerre mondiale, comme on parle de Seconde Guerre mondiale ou de Deuxième Guerre mondiale, longtemps avant 1939, avant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en fait, la Première Guerre mondiale est à peine finie ou n'est même pas finie, qu'on s'interroge en fait. Quand sera la suivante ? C'est toujours à titre d'hypothèse, en fait. C'est pas pour désigner une réalité. Mais bon, dès le début des années 1920, enfin, il y a la conférence de Washington. On essaye d'arbitrer les tensions géopolitiques entre le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, sur les flottes navales, etc. Bon, le risque de guerre, il est quand même là. Et donc, on envisage la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est pareil, on voit l'occurrence monter, alors soit seconde, soit deuxième, mais à partir de du milieu des années 1930. Toujours pareil, un petit peu avant, quoi.
Pour terminer peut-être sur une notation un peu plus légère que la guerre, quoique le personnage ne soit pas que léger, c'est la traversée de l'Atlantique en avion par Lindbergh en 1927 qui, vous le montrez, marque les esprits de façon très forte. C'est-à-dire que c'est comme si c'était l'une des dernières barrières en quelque sorte à tout ce qu'on a dit auparavant sur le rétrécissement, l'abolition des distances, la contraction de l'espace-temps, etc. Et là, il semble qu'il y ait quelque chose qui cristallise une réflexion sur le monde et sur le fait que le monde soit plus petit qu'auparavant. Autour de ces moments-là.
Oui, alors après, c'est peut-être une sensibilité personnelle, honnêtement, parce que d'un côté, j'ai un grand-père qui a travaillé avec Blériot, et qui a travaillé dans une usine d'aviation dans la banlieue parisienne, et de l'autre, j'ai une grand-mère qui a appris à piloter, voilà. Alors que, voilà, elle avait 20 ans en 36, hein. Donc, c'est des choses que j'ai entendues. En fait, je crois que l'aviation, enfin, c'est pareil, c'est devenu sans doute une évidence. Je pense que pour nos élèves, oui, bon, y a des avions dans le ciel, ça vole, on peut aller n'importe où, enfin, etc. Bon, je pense qu'au début du XXe siècle, ça a quand même marqué les esprits. Et la traversée de l'Atlantique par Lindbergh, c'est un événement, bien sûr. L'événement suivant, hein, c'est la traversée du Pacifique, hein, par un hydravion, hein, en 1936. Hein, donc on va pouvoir commencer à faire le tour du monde en avion. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et je crois que ce qui est très important aujourd'hui, si on fait l'histoire globale, l'histoire globale, je veux dire au sens strict, si on fait une histoire de la mondialisation, comment l'humanité s'est unifiée, comment le monde est devenu monde, ça nous demande en fait un recul en fait. Sortir de nos évidences, sortir de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, pour comprendre en fait tout ce qui constitue ce monde, que ce soit dans les moyens de communication, dans les moyens de transport, dans les conventions internationales. Vous avez parlé de la poste tout à l'heure, mais bon, c'est les fuseaux horaires, c'est la dénomination des nuages, c'est le système métrique, etc. Enfin, et tout ça s'est constitué progressivement. Et c'est vrai que l'avion, pour en revenir à Lindbergh, c'est une accélération, c'est une contraction de l'espace-temps qui est importante, même si évidemment là c'est un individu, hein, mais bon, c'est les années 50, c'est les années 60. Hein. Les compagnies aériennes, elles se développent, les premières compagnies aériennes, elles se développent après la Première Guerre mondiale. Hein. Je pense que la Première Guerre mondiale a fait faire un saut aussi à l'aviation. Air France, par exemple, KLM, et on a ces réseaux qui s'étendent, hein, à partir encore une fois, de l'Europe à l'époque, mais pas que. Hein. On a aussi un réseau aérien qui se développe à partir de Tokyo, hein, à partir du Japon. Hein. Je crois c'est important de ne pas oublier, en fait, hein, à partir de la fin du 19e, on a l'émergence de la puissance japonaise. La mondialisation, elle n'est pas que européenne. Enfin, le reclus le dit, hein, on est de plus en plus dans un monde polycentrique. Alors, sans doute qu'il rêve. Enfin, en tout cas, il anticipe sur quelque chose qui n'est même pas encore advenu. Mais ce sont ces processus qui sont à l'œuvre déjà à l'époque. Et l'autre dimension, sans doute, dans l'avion, c'est que, évidemment, on décolle, on s'élève. Alors, on ne s'élève pas encore très très haut, hein, mais c'est les pages sublimes de Saint-Exupéry, en fait. Donc, on voit la Terre des Hommes vue d'en haut, de jour, de nuit. C'est tout un imaginaire et poétique, mais pas que. et qui, je pense, a saisi les contemporains, en fait. Voilà.
Merci beaucoup, Vincent Cadieux. Tu rappelles le titre de votre livre, Le Monde ou Rien. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro ?
Je ne sais pas si je peux faire de la promotion familiale. Puisque j'ai une mère donc, qui est aussi historienne.
Qui n'est pas pilote.
Qui n'est pas pilote. Non, pas du tout. Mais qui est spécialiste de Félix Eboué. Mais qui va publier dans quelques semaines un nouvel ouvrage sur les camps de Saint-Médard-en-Jalles. J'en parle parce que c'est très très loin d'être de l'histoire locale. Et je crois que... On méconnaît en fait profondément le nombre de camps. Alors, c'est un terme qui est un peu polysémique, hein. Il y a des camps militaires, mais des camps de prisonniers, il y a des camps de travailleurs. Et on méconnaît profondément, je crois, la géographie, la géohistoire des camps en France. Oui, on en connaît quelques-uns. On connaît le Struthof, on connaît, je sais pas, Drancy, par exemple, Gurs ou d'autres. Mais... Très honnêtement, pour moi, ça a été aussi une sorte de révélation, entre guillemets, d'apprendre à 40 ans passés que donc, la ville de Saint-Médard-en-Jalles, qui est à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux, eh bien, avait compté en fait, de très nombreux camps. Que voilà, à côté du collège où j'étais, il y avait un camp d'Espagnols. Qu'à côté du lycée où j'étais, il y avait des camps de soldats français, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, tous ces soldats noirs qui ont été faits prisonniers, qui n'ont pas été faits prisonniers en Allemagne, hein, qui ont été emprisonnés dans des camps en France. Des camps de travailleurs indochinois aussi, des camps de prisonniers allemands après la Seconde Guerre mondiale. Tous ces camps, en fait, ont disparu. Parce que c'est une architecture de bois, de barbelés, tout élément qui ont disparu et qui ont disparu en grande partie des mémoires, qui ont disparu des lieux parce qu'on a construit des habitations. Un des centres de l'hygiène donc à Saint-Médard est construit sur l'ancien camp des Espagnols, par exemple. Et que cette mémoire, elle s'efface au point que les quelques vestiges qui existent et qui ne sont pas protégés, en fait, disparaissent. Voilà, il y a en 2017, moi, j'ai pu faire encore des photos, en fait, de structures en béton d'un de ces camps. Bah, quelques années après, ça a été détruit parce qu'en fait, on s'en fiche. Alors oui, c'était la fosse des latrines d'un camp. En fait, je veux dire, ça n'a rien de spectaculaire. Ça, je ne sais pas si c'est intéressant. Enfin, si c'est intéressant, en fait. Mais oui, mais en tout cas, c'est important. C'est important. Et il y en a à Saint-Médard, comme il y en a ailleurs en France. Il faut le protéger, il faut travailler sur la mémoire parce qu'il y a encore des gens qui s'en souviennent, il faut travailler sur des archives et puis il faut faire de l'archéologie.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'été. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify, et à bientôt pour un nouvel épisode.